Vous écoutez Les Petits Caractères, le balado d'options consommateurs qui vise à poser un regard critique sur les enjeux de consommation qui vous préoccupent. Ici Marianne Spear, j'ai l'honneur d'être votre animatrice et aujourd'hui je suis en compagnie de Alexandre Plourdre, analyste et avocat chez Options Consommateurs. Allô Alexandre, ça va bien?
Oui, ça va bien, Marianne.
Oui, ça faisait un petit moment qu'on t'avait reçu au balado. C'est la première fois cette saison?
C'est la première fois cette saison. C'est la première fois dans ce studio filmé. Donc, là, il y a des caméras qui me regardent.
Est-ce que tu te sens quand même à l'aise?
Oui, ça fait un peu différent. On a un public aussi. C'est assez intéressant. On a même des plantes. Là. Je ne sais pas si c'est des vrais.
On est même en live sur TikTok.
Bon, ben bonjour à tout le monde sur TikTok également. Donc, ça fait beaucoup de monde qui nous écoute. Là.
Ça fait beaucoup de nouveaux. Puis, on va parler de nouveautés justement 2024. Toi, tu prédis que ça va être l'année de la fraude.
Ouais.
Qu'est-ce qui te rend pessimiste comme ça?
2024, ma prédiction, année de la fraude, c'est les chiffres. C'est les chiffres qui me rendent pessimiste. Depuis des années, on a une augmentation phénoménale de la fraude. Chaque année, les statistiques indiquent que les pertes attribuables à la fraude au Canada sont en croissance. Fraude les plus couramment rapportées, c'est souvent l'hameçonnage ou tout ce qui tourne autour de l'hameçonnage, là, toutes les pratiques semblables à l'hameçonnage où on essaye de soutirer mes renseignements bancaires, soutirer mes renseignements personnels ou juste avoir mon argent directement en se faisant passer pour quelqu'un d'autre. Donc, ça peut être des faux courriels, des faux appels, des faux textos dans lesquels le fraudeur se fait passer pour une institution financière ou une autre entreprise légitime ou il se fait passer aussi pour une autorité gouvernementale, par exemple la GRC ou l'Agence du revenu. Donc, on peut souvent recevoir des textos ou des faux courriels de ce type-là.
Ouais.
Donc, il y a l'hameçonnage et toutes ses formes, mais il y a aussi toutes sortes d'autres menaces qui nous guettent comme consommateurs, toutes sortes de fraudes. Il y a des fraudes amoureuses, des fraudes d'investissement, les faux concours. Puis il y a toutes sortes de menaces informatiques, les rançongiciels, ça continue à sévir, des logiciels malveillants. Puis il y a plein de cas, t'en as sans doute vu dans les médias qui sont rapportés.
Ah oui, puis pas juste dans les médias, dans mon entourage. Ouais. Et puis je pense que c'est le cas pour tout le monde, malheureusement.
Puis ce que je prédis, j'ai pas de boule de cristal, Marianne, mais moi je pense que 2024 va être sur la même tendance. Les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, ça continue à évoluer, ça va faciliter encore plus la vie aux fraudeurs. Puis en plus, il y a toujours le vieillissement de la population. Les aînés sont des très bonnes cibles pour les fraudeurs. Donc, plus d'aînés à frauder, des meilleures technologies pour le faire. Donc, c'est la tempête parfaite pour une année fertile en fraude.
Je comprends mieux. C'est quoi les types de fraudes qui te préoccupent le plus?
Moi, ce qui me préoccupe le plus, ce sont toutes les fraudes qui visent les personnes vulnérables et en particulier les aînés. Puis en particulier, il y a eu une vague récemment de ce qu'on appelle la fraude du faux représentant. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de cette fraude-là, Marianne.
Non.
C'est une arnaque dans laquelle le criminel se fait passer pour un employé de la banque du consommateur puis qui lui dit « vous êtes fait frauder ». Généralement, comment ça va se passer, c'est que l'aîné reçoit un téléphone d'une personne qui est très insistante, qui dit qu'il est employé de la banque, qui lui dit « vous êtes à risque de vous faire frauder, il faut que je mette votre argent en sécurité. Donnez-moi votre carte de débit, puis donnez-moi votre NIP, puis je vais aller retirer votre argent, puis je vais le mettre en sécurité. » Donc, parfois, la personne fait juste passer chercher la carte de débit avec son NIP. D'autres fois, on amène l'aîné dans sa succursale bancaire pour lui demander de retirer de l'argent. Et ça cible évidemment des personnes vulnérables, donc des aînés. Les aînés peuvent souvent être des personnes qui sont plus isolées, qui sont plus faciles à intimider aussi dans ce genre de circonstances-là, sont plus susceptibles de céder à la pression, de se laisser embobiner par ce type de fraudeur-là. Et souvent, les gens qui sont victimes de ce type de fraude-là mais ont un grand sentiment de honte, de culpabilité, qui fait en sorte qu'on hésite à dénoncer, qu'ils peuvent hésiter à dénoncer. Et ce qui est vraiment triste, c'est que j'ai vu des cas où parfois la banque, pas dans tous les cas, mais parfois la banque peut même refuser de rembourser le consommateur qui a été victime de cette fraude-là en lui attribuant la faute, en lui disant « vous avez mal protégé votre NIP » et on refuse de le rembourser. C'est survenu dans certaines circonstances.
Ah oui, puis c'est quoi que la loi a dit dans tout ça?
En matière de fraude bancaire, c'est un peu du cas par cas selon les circonstances. Les règles vont vraiment être différentes selon le mode de paiement qui a été fraudé. Je vais avoir une protection légale. Il y a une protection qui est prévue dans la loi pour la carte de crédit. Donc, j'ai une certaine protection si je me fais frauder sur ma carte de crédit, mais pas pour la carte de débit, puis pas pour tout ce qui est virement en ligne. Donc, si je me fais frauder sur ma carte de débit ou si je me fais frauder, par exemple, mes services bancaires en ligne, bien, j'ai beaucoup moins de protection de la loi. légalement si ma carte de débit est fraudée. Puis souvent, bon, l'arnaque là, du faux représentant, ça va être souvent une arnaque sur la carte de débit. Je pourrais être considéré responsable de la fraude si j'ai été fautif. Donc, si j'ai été négligent dans la protection de mon IP, si j'ai partagé mon IP à mon conjoint, si j'ai écrit mon IP quelque part de mal dissimulé, ou si j'ai pas respecté certaines mesures de sécurité qui sont imposées par la banque. Par exemple, l'aviser si je pense que ma carte a été volée ou fraudée, ce genre de choses-là.
Okay.
Même chose pour les services en ligne. Donc, il y a toutes sortes d'obligations de sécurité dans les contrats bancaires, des obligations de sécurité à respecter. Donc, je ne peux pas me brancher, par exemple, sur mon service bancaire en ligne via un Wi-Fi public. Je dois avoir un antivirus sur mon ordinateur. Je dois déconnecter ma session. Je dois avoir un mot de passe qui est bien protégé. Puis, si je ne respecte pas ces obligations-là, puis je me fais frauder, la banque pourrait dire « t'as été fautif ».
Mais ça, c'est vraiment important, qu'est-ce que tu viens de dire, ouais. Quand même. Là, ne pas aller sur son compte quand que la connexion est pas sécurisée.
Oui, ça fait partie des obligations qui sont dans le contrat. Puis il y a beaucoup de gens qui ignorent
ben,
ça.
Oui, mais ben, pas qui ignorent ça, mais qui lit absolument tous les petits caractères.
Dans les petits caractères, justement, c'est le nom du podcast. Je sais pas si je gagne quelque chose quand je dis le nom du podcast. Mais effectivement, et c'est écrit, il y a toutes sortes d'obligations de sécurité qui sont prévues là. Puis, s'ils ne le respectent pas, je me fais frauder, la banque fait une enquête et ils disent « Oh, vous êtes connecté sur Wi-Fi public. Oh, vous n'avez pas respecté telle obligation ou telle autre obligation. » Ils pourraient se servir ça comme un justificatif pour refuser d'indemniser le consommateur. C'est le genre de risque qu'ils posent sur nous. Puis, il n'y a pas vraiment de loi qui nous protège contre ça. C'est vraiment juste le contrat bancaire.
Puis ça, les choses dont tu viens de me parler, là, auxquelles il faut faire attention dans notre contrat, est-ce que ce serait possible que, mettons, option consommateur... fasse une petite infographie ou je ne vais pas vous ajouter de la job, là, mais tu sais, il me semble que c'est beaucoup d'informations. Être quelqu'un qui écoute le podcast, je me dirais, hey, ça, c'est important, mais j'aimerais ça avoir un petit rappel à quelque part.
Ah, ben, ça va nous faire plaisir de mettre ça sur les médias sociaux, évidemment.
Je lance ça une ligne. Fait que ce n'est pas déjà en ligne.
Il y a beaucoup de trucs de conseils de sécurité qui sont donnés par les institutions financières. Là, ils en mettent beaucoup. Mais ce qu'ils ne disent pas, c'est que si tu ne les as pas respectés, ces consignes de sécurité-là, eux, ils pourraient par la suite te reprocher de ne pas avoir respecté ces consignes-là.
Je comprends. Puis si on se fait avoir par l'arnaque du faux représentant, tu m'as dit qu'on pouvait ne pas être remboursé, mais est-ce qu'il y a une faute du consommateur aussi? Est-ce qu'il fait partie de la fraude à quelque part?
Tu sais, puis il y a beaucoup de gens qui se sont fait avoir justement par ce type d'arnaque-là, par la fraude du représentant. Mais c'est bien beau de dire qu'un consommateur peut être fautif, mais à mon avis, un consommateur qui est victime d'une fraude de ce type-là n'est pas responsable. Il devrait avoir droit à un remboursement des sommes. Un consommateur, il n'est pas responsable s'il est victime d'une supercherie. S'il est trompé par un criminel, ce n'est pas une faute d'être tombé dans le panneau. Ce n'est pas manquer à la protection de son IP. Ce n'est pas de la négligence de s'être fait frauder de cette façon-là. Puis si on prend le cas de la fraude du faux représentant, je crois pas que des personnes vulnérables qui ont été bernées par un fraudeur professionnel sont légalement responsables des pertes qui ont été portées à leur compte. Il existe même en fait un code de pratique sur les cartes de débit. Donc c'est un code volontaire des banques qui prévoit clairement, c'est écrit noir sur blanc dedans, je peux même te le donner à la fin de l'entrevue si tu veux, qu'un consommateur n'est pas responsable s'il a été victime d'une supercherie. Mais pourtant, bien, il y a certaines banques, comme je te disais, qui refusent d'indemniser les consommateurs qui sont victimes de fraude, alors que ces gens-là n'ont rien à se reprocher, sont simplement tombés dans un piège. Puis souvent, ça peut être des personnes vulnérables qui étaient plus susceptibles de tomber dans le piège.
Bien,
aussi.
C'est ça, parce que oui, personnes âgées, bon, la technologie, mais si tu es à plus faible revenu ou tu es dans une situation financière précaire, bien, ouais. Il y a tout le stress financier qui est plus là. On t'appelle pour te dire que tu vas te faire frauder.
Ces gens-là n'ont rien à se reprocher. Ils n'ont pas manqué à la protection de leur NIP en tant que tel. Ils se sont fait simplement berner. Puis je ne crois pas qu'une banque serait justifiée là, de leur reprocher d'avoir été fraudée.
Puis, c'est ça. Il y a le fraudeur, clairement, il y a une faute. Le consommateur, selon toi, aucune responsabilité. La banque, est-ce qu'elle a une responsabilité?
Je pense que les banques ont une part de responsabilité importante dans les fraudes, dans la vague de fraudes qu'on voit actuellement. Puis qu'elles s'en déchargent peut-être parfois trop facilement envers les consommateurs. Ce sont les banques qui mettent en place ces systèmes de paiement. Ce sont elles qui créent les risques. Puis à mon avis, elles devraient avoir une plus grande responsabilité pour sécuriser leur système, pour détecter les opérations suspectes. Écoute, si un aîné que soudain il fait un retrait de plusieurs milliers de dollars, c'est peut-être suspect aussi. Donc peut-être vérifier ce type d'opération-là, avertir les consommateurs des risques aussi. Ce qu'on a pu voir, par exemple, c'est qu'il y a certaines résidences pour personnes âgées qui étaient ciblées par des fraudeurs. Il y a plusieurs aînés dans la même résidence qui sont ciblés. Peut-être à ce moment-là, avertir les gens aussi dans cette résidence-là qu'il y a des activités criminelles qui ont cours aussi. Puis ce qui me laisse, moi, un mauvais sentiment par rapport à tout ça, c'est que parfois les banques finissent par agir ou par rembourser les consommateurs seulement une fois lorsque l'affaire est médiatisée. Donc, parfois, on nous demande, nous, les avocats d'options consommateurs, de commenter des affaires dans les médias où ce que les banques refusent d'indemniser les consommateurs. Donc là, on va dans les médias, on fait des entrevues, puis on joue à l'avocat fâché que la banque veut pas rembourser le consommateur. Ça donne l'impression que parfois, les banques accordent plus d'importance à leur image publique, à leur réputation, qu'à la protection de leurs clients.
Ouais, mais en même temps, ça fait une occasion de parler d'eux en plus dans les médias, là, mais c'est pas de parler de la bonne façon. Ouais. Mais je comprends que ça peut te laisser un arrière-goût assez désagréable. Est-ce qu'il y a des solutions à tout ça, selon toi?
Ben, le problème de fond par rapport à tout ça, c'est qu'il n'y a pas de carte de protection uniforme au Canada en matière de mode de paiement. Donc, la carte de crédit, il y a un encadrement légal, mais il n'y a pas la même chose pour la carte de débit puis les transactions par Internet.
C'est quoi l'encadrement légal? Pourquoi c'est plus facile de se faire rembourser sur une carte de crédit que sur ta carte de débit?
La loi prévoit que si je me fais frauder ma carte de crédit, ma responsabilité maximale va être de 50 $ à moins que j'ai fait preuve, j'ai commis une faute lourde. Donc, un niveau de négligence qui est vraiment élevé. Il faut vraiment là, que j'aille dépasser les bornes, que j'ai été vraiment très, très imprudent pour qu'on puisse m'imputer une faute sur ma carte, une faute contributoire là, à la fraude qui a été subie sur ma carte de crédit, ce qui n'est pas le cas pour la carte de débit. Carte de débit, on pourrait me reprocher des petits manquements, puis potentiellement, ça pourrait être retenu contre moi. Donc, le niveau de faute qui peut être porté contre moi est plus élevé là, pour la carte de crédit.
Puis la faute lourde en tant que telle, si tu n'as pas d'exemple à me donner, c'est pas grave, mais ça pourrait-tu être comme, mettons, tu t'es mis en faculté affaiblie, bien là, tu serais encore moins...
Faute lourde, écoute, ça serait...
Traîne avec des gens que tu sais qui ont des dossiers criminels de fraude ou
ça. Si tu mets ton NIP sur ton Facebook, par exemple, puis t'invites tout le monde à aller retirer de l'argent sur ton compte en banque, Marianne, probablement que la banque pourrait considérer, puis même les tribunaux pourraient considérer que c'est une faute lourde.
Ah, OK, c'est plus clair, là.
Mais un petit manquement, une obligation de sécurité...
Perdre ton portefeuille.
Ou un oubli ou une petite négligence, ça ne devrait pas être retenu contre un consommateur, à mon avis. Puis l'encadrement légal actuellement des services bancaires en ligne, des cartes de débit, ben il offre des possibilités à la banque de servir de petits manquements du consommateur pour justifier le refus de les rembourser. Puis ce que je dirais, c'est que plutôt que d'avoir des codes volontaires ou une absence de normes complètes, je pense que ça prend des lois contraignantes qui offrent pour tous les modes de paiement au Canada une protection similaire à celle de la carte de crédit. Puis c'est pas nouveau qu'on demande ça chez Options Consommateurs. Okay. C'est une revendication de très longue date. Ça date de plusieurs décennies. Avant même que tu sois de ce monde, Marianne, Options Consommateurs demandait à ce qu'il y ait un encadrement uniforme des modes de paiement au Canada, qu'on soit mieux protégé contre la fraude. Peut-être que 2024, ça va être l'année où les choses vont débloquer. Il y a un développement technologique actuellement. L'intelligence artificielle se développe rapidement. Et la fraude continue à augmenter. Donc, peut-être que cette année, on peut espérer, peut-être que cette année, les choses vont débloquer.
Y a-t-il des pays dans lesquels c'est déjà mis en place?
Oui, il existe des lois aux États-Unis, en Union européenne, qui sont plus avancées que nous.
Bon. Puis, on va terminer avec la question « Que faire en cas de fraude? »
Un classique.
Donc, si on est victime.
On se fait toujours poser la question. Conseil usuel. Donc, si on est victime d'une fraude bancaire, on a l'obligation d'aviser rapidement la banque dès qu'on se rend compte qu'on a potentiellement été victime d'une fraude ou qu'on s'est fait voler ses cartes. Si je suis victime d'une fraude aussi, contacter la police. Une fraude, c'est un crime. Okay. Je peux signaler la fraude aussi au Centre canadien anti-fraude. Si on refuse de me rembourser, je peux suivre le processus de plainte interne des banques qui mène jusqu'à un ombudsman externe auquel je peux porter plainte et qui peut rendre une décision. donc l'Ombudsman des services bancaires et d'investissement, là, qui est l'ultime instance sur laquelle je vais pouvoir m'adresser. Puis en conclusion, je mentionnerai seulement que dénoncer, c'est très important, dénoncer la fraude. Les gens, particulièrement les aînés, sont parfois gênés, sont honteux, ils ont un sentiment de culpabilité quand ils sont victimes de fraude. Mais même si les banques ne remboursent pas toujours, parfois il faut les tirer l'oreille un petit peu pour qu'elles remboursent, c'est certainement pas en gardant le silence que les choses vont changer.
Non, puis avec un rapport de police, même que ça peut faire tourner les choses de notre bord un peu plus. Bon, ben excellent. Merci beaucoup, Alexandre.
Ça fait un plaisir, Marianne.
À la prochaine.
Bye.
Pour la chronique d'aujourd'hui, on accueille une nouvelle intervenante chez Options Consommateurs, Alicia Marchetta. Allô, Alicia!
Allô, Marianne, ça va bien?
Ça va bien, toi?
Ben oui,
puis
ben oui.
Tu te plais bien à Options Consommateurs?
J'adore.
Et là, depuis combien de temps, là?
Ça fait à peu près 3 mois que je suis là, chez mes collègues.
Trois mois déjà au podcast, c'est super. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'implication de ta part. Aujourd'hui, tu voulais nous parler des robots d'achat?
Exactement. Donc, c'est en fait, les robots d'achat, c'est un programme informatique automatisé qui permet de remplacer certaines fonctionnalités que ferait un client, en fait, d'un magasin en ligne, d'un commerce en ligne. On va parler surtout de la fonctionnalité, en fait, de la vérification des stocks. Donc, par exemple, un item est hors de stock. Ou juste avant un lancement, le robot peut nous dire quand l'item est en stock. Mais la fonctionnalité qui nous intéresse surtout aujourd'hui des robots d'achat, c'est en fait le traitement automatique des commandes. Donc, à la place d'avoir à rentrer nous-mêmes manuellement l'information pour passer un achat, le robot, dès que l'item est en stock, fait en simultané plusieurs achats presque automatiquement. On parle d'une vitesse pour certains robots de près de 0,2 secondes.
Ça me fait penser aux billets de spectacle. C'est-tu ça un petit peu qui s'est passé?
Effectivement.
Peux-tu genre me donner l'exemple des billets de spectacle avec le robot? Ça donne quoi pour le consommateur? En quoi c'est problématique pour lui?
Bien sûr. Donc, au niveau, on a vu ça avec les billets. On a aussi vu ça pendant la pandémie avec les PS5. Et puis les consoles Nintendo Switch. Donc, qu'est-ce que ça donne dans le concret? Il y a certains, peut-être, des personnes qui nous écoutent qui ont essayé d'acheter une des consoles pendant la pandémie, sont sur le site quand c'est lancé, et puis, bon, le site bug, ils réussissent pas à acheter l'item tout de suite, il est hors de stock. Pourquoi c'est arrivé? Bien, on a vu, c'est pas seulement les robots. On a vu, par exemple, qu'il y a eu des limites dans les stockages, notamment, comme mon collègue Carlos en a parlé dans le podcast précédent, où il y avait eu des problèmes d'approvisionnement des cartes graphiques, par exemple. Donc, les stocks étaient déjà limités. Mais en fait, c'est pas seulement ça qui a créé une pénurie assez rapide là, des consoles, c'est également les robots d'achat. Donc, on peut imaginer là, que il y a plusieurs en fait robots, il y a plusieurs utilisateurs aussi pour un même robot qui font des centaines de transactions pour le même item. Un humain en fait qui doit prendre le temps de cliquer sur l'item, de rentrer son information de paiement, de passer la transaction ne peut tout simplement pas compétitionner contre un robot qui fait des transactions simultanées en 0,2 secondes, là, en fait.
Et ça vient un peu fausser le marché pour un certain produit, puis ça peut faire que les gens qui l'ont acheté en groupe, après, ils les revendent sur le marché secondaire comme à plus gros prix, dans le fond.
Exactement. Donc,
ils trouvent qu'ils n'ont pas assez d'inflation en ce moment. Ils se disent, mais voyons!
Exactement. Comme on s'en doute, c'est on n'achète pas une centaine de consoles là, pour notre usage personnel ou pour les redonner gratuitement à nos amis. C'est souvent, en fait, le but de ça, en fait, de se procurer un robot d'achat et puis d'effectuer ce nombre d'achats-là, c'est la revente. Donc, on va voir, en fait, sur des plateformes comme Kijiji, Facebook Marketplace, eBay même, de la revente. Et puis, encore une fois, on se doute que ce n'est pas au prix original dont on l'a acheté. Donc, on voit pour certaines des consoles, justement PS5 ou Nintendo Switch, en fait, la revente à 200 à 400 $ de plus cher, en fait, que le prix d'achat sur les sur ces plateformes-là. Et puis en plus, pour le consommateur, à ça s'ajoutent certains frais sur certaines plateformes de livraison, par exemple. Mm. Donc, ça peut emmener certains enjeux là, pour le consommateur, justement, d'avoir, à, si on veut se procurer la console, d'aller sur le marché seconde main.
Ouais. Outre le fait que ça augmente le prix pour absolument aucune raison pour le consommateur, est-ce qu'il y a d'autres enjeux qui t'inquiètent par rapport au robot d'achat?
Absolument, absolument. Donc, première des choses, pour les robots d'achat, de un, ça crée une hausse des prix, mais aussi le consommateur peut avoir, si un problème avec le produit, peut avoir de la difficulté à faire valoir ses droits. Il y a toujours les garanties des fabricants qui vont s'appliquer, mais on le sait, souvent, ça va être plus facile d'aller voir, par exemple, on a acheté la console chez un commerçant qui a pignon sur rue, ben c'est plus facile d'aller voir, pardon, le micro, c'est plus facile d'aller voir le commerçant directement. Donc, il y a cet enjeu-là aussi. Et puis, on peut aussi parler, en fait, pour qu'est-ce qui est PS5, pour qu'est-ce qui est console de jeu ou même les sneakers, là, en fait.
Pensé à ça aussi, les sneakers. Il me semble que ça se revend beaucoup très cher, mais je pensais que c'était juste parce que c'était une affaire de collection.
Collection en stock limité. Donc, on voit les mêmes conditions, en fait, que pour la PS5, c'est en forte demande, c'est en stock limité et souvent, c'est des produits un petit peu plus de luxe. Puis en fait, les robots d'achat ont originé dans ce milieu-là, environ dans les années 2012 pour les sneakers. Pendant la pandémie, il y a eu les mêmes conditions, en fait, qui se sont appliquées pour en fait, favoriser l'usage, en fait, des robots pour les consoles. Et pour revenir, en fait, à qu'est-ce qui m'inquiète par rapport à ce phénomène-là, ça peut peut-être être frustrant de ne pas obtenir les sneakers qu'on voulait de collection si on est collectionneur, par exemple. Mais on a vu qu'aux États-Unis, surtout, le phénomène s'est étendu à des services et des produits essentiels.
Et pas sérieuse.
Oui, malheureusement, on a vu, en fait, aux États-Unis, encore une fois, pendant la pandémie, ils ont eu le même problème un peu qu'au Canada aux services de renouvellement de passeport. Donc, des robots d'achat auraient bloqué les rendez-vous et puis les auraient vendus moyennant un prix exactement. En fait, il y a une enquête en ce moment en cours pour voir si dans la pénurie de lait maternisé, les robots auraient également été un facteur, pas le seul, mais en ce moment, il y a une enquête en cours pour voir si ça aurait contribué à la pénurie canadienne et aux États-Unis. Donc, on s'entend qu'à ce niveau-là, c'est un petit peu plus grave pour le consommateur quand ça touche ce genre de produit-là.
Oui, puis je comprends que c'est un phénomène relativement récent, mais est-ce qu'il y a déjà eu des sanctions qui ont été données ou est-ce qu'on a une idée de comment est-ce qu'on pourrait stopper ce processus-là? Est-ce que c'est un petit peu en cours?
Oui, dans le fond, pour les moyens pour arrêter ce genre de phénomène-là, on pourrait au moins limiter les dommages. Au niveau, justement, tu parlais des billets de spectacle plus tôt, la loi de la protection du consommateur interdit l'usage de robots pour l'achat de billets en masse. Okay. Et puis également la revente de ces billets-là à un prix plus cher que le prix affiché, à moins qu'on aille une entente avec le commerçant ou le promoteur du spectacle, par exemple.
C'est une des premières choses qui a été mise en place pour le secteur des billets de spectacle.
Exactement. Ça s'applique seulement pour les billets de spectacle. Donc, on pourrait penser à des solutions législatives d'étendre cette protection-là.
Je comprends que c'est un phénomène quand même assez récent, mais est-ce qu'on a déjà des solutions?
Oui, donc au niveau de la loi, tu parlais tantôt des billets de spectacle, la revente des billets de spectacle. C'est une pratique qui prédate en fait les robots d'achat. Donc la loi de la protection du consommateur prévoit l'interdiction d'utiliser des logiciels dont les robots d'achat pour acheter en masse les billets de spectacle interdit également la revente de ces billets-là, par exemple, à prix plus cher que le prix originalement payé, à moins d'avoir une entente avec le commerçant. Donc, ça ne veut pas dire que parce que j'achète un billet de spectacle, je ne peux pas revendre ce billet-là,
okay.
Mais pas à un prix plus élevé à profit.
Pas dans l'objectif de faire un profit.
Exactement. Et puis, cette interdiction-là, en fait, s'étend seulement au billet de spectacle. Donc, ça ne touche pas les produits qu'on a nommés aujourd'hui, ni d'autres, en fait, produits ou services. Donc, une solution pourrait être d'étendre, en fait, cette protection-là à d'autres produits, surtout si on voit que ça continue à toucher des produits essentiels, là, comme les exemples qu'on a mentionnés.
Ben oui, ça serait inquiétant.
Mm-hmm.
Puis sinon, au niveau des commerçants?
Au niveau des commerçants, reste qu'il y a quand même une responsabilité des commerçants, en fait, de stopper ce trafic-là, ne serait-ce que pour des raisons éthiques ou même pour des raisons, en fait, de vouloir plaire aux consommateurs. On s'entend que ça peut être assez frustrant, en fait, de pas pouvoir obtenir le produit, d'avoir à attendre plusieurs mois, voire plusieurs années aussi, là, pour obtenir un produit. Reste, par exemple, que c'est assez contre-intuitif peut-être pour un commerçant de limiter ces pratiques-là, puisque ben, pour le commerçant, on écoule rapidement notre stock.
C'est des ventes là, pour lui, c'est des ventes rapides.
Exactement, exactement. Et puis, au niveau, c'est sûr qu'il y a des logiciels, en fait, et puis des moyens technologiques pour stopper, en fait, les achats par robot. Mais comme on a vu, en fait, c'est assez facile là, pour un programmeur expérimenté là, de passer par-dessus ces mesures de sécurité-là. Donc, au niveau de stopper complètement, c'est assez complexe comme enjeu, autant au niveau légal que technique. C'est certain que le consommateur, lui, lui ou elle a des options aussi. Là.
Ouais.
En fait, au niveau d'arrêter le phénomène, on ne peut pas être plus rapide que les robots, malheureusement.
Ben non, c'est ça.
Donc, on peut se demander en tant que consommateur, surtout quand on parle de produits non essentiels, là, comme des produits de luxe, les consoles, les sneakers, est-ce que c'est réellement nécessaire, en fait, pour moi d'avoir ce produit-là? Si je veux vraiment l'acheter parce que, par exemple, je suis gamer professionnel ou c'est mon hobby ou peu importe, on peut se demander aussi, c'est établir une limite de prix, une limite de budget. Donc, est-ce que je veux réellement payer 400 $ de plus? Est-ce que ça rentre dans mon budget? Est-ce que je veux aussi encourager ces pratiques-là? Parce que reste que les consommateurs, ben ça fonctionne parce que...
Ils achètent après à plus cher.
Exactement. Donc, on s'entend qu'il n'y aurait pas de marché de revente si on le rachète. Loin de là, le point de blâmer les consommateurs veulent obtenir ces produits-là. Je peux comprendre que c'est un désir.
Mais ça peut être une manière de dire qu'on n'est pas d'accord, puis de se lever pour la cause.
De se lever pour la cause, simplement aussi. Peut-être prendre son mal en patience aussi, se demander est-ce que ça vaut vraiment la peine de payer 300-400 $ de plus, des frais, de peut-être avoir plus de difficultés si on a des problèmes avec le produit de faire valoir ses droits. Donc, c'est des pensées-y bien.
Excellente première chronique, Alicia. Merci beaucoup pour ceux qui nous ont écoutés. C'est un plaisir de partager ce moment avec vous. Et on se revoit dans un prochain épisode des Petits Caractères.